que je ne vous ennuie pas quand j'ouvre cette émission avec ce qu'on pourrait appeler dans le jargon journalistique un édito ou un éditorial, c'est-à-dire un texte informatif mettant en avant l'opinion de son auteur. Un édito souvent matiné d'éléments liés à mon parcours personnel. Vous le savez ou l'ignorez, peu importe, votre serviteur à ce micro s'en est éloigné l'an dernier et cette année. 8 mois durant, ma vie s'est concentrée sur ma compagne et ma fille tout juste arrivée. Je me suis isolé au point, je l'ai déjà dit, de ne plus du tout regarder les réseaux sociaux. Quelle n'a pas été ma surprise en revenant sur ces espaces de conversation publique détenus par des entreprises privées? Quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'en bien peu de temps, un tout nouveau média avait émergé et même imprimé sa marque? Bien sûr, des projets journalistiques naissent tous les jours, mais il est fort rare que le succès soit au rendez-vous et plus rare encore qu'il arrive en quelques semaines. C'est pourtant bien ce qui s'est passé pour le sujet de cette émission. Aujourd'hui, j'ai nommé Brut, B-R-U-T, point.
L'atelier des médias, Diane Malouf.
Brut, c'est un média qui a fait comme beaucoup d'autres le pari des réseaux sociaux présents sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube et Dailymotion. Son site propre, Brut.live, n'est aujourd'hui qu'un renvoi vers ses différents comptes. Depuis son lancement fin novembre dernier, le média a généré 120 millions de vues de vidéos visionnées sur son compte Facebook. L'essentiel de sa production est vidéo, des vidéos très courtes pour la plupart dont on va décortiquer aujourd'hui le style, le fond, la forme et la viralité. Ces productions d'une minute environ sont le cœur du réacteur. Ce sont ces objets médiatiques inspirés d'Al Jazeera Plus, AJ Plus ou de l'américain Nowzes qui ont fait la renommée et le succès du projet. Brut, c'est aussi du direct, du live comme on dit malheureusement. Et là, c'est très différent car la durée moyenne des vidéos est d'une heure. Mais commençons par le commencement.
Alors oui, moi je suis Laurent Lucas, donc je suis le producteur éditorial de Brut. Et donc on a commencé à parler du projet Brut, c'était au printemps dernier. Le projet a été initié par Guillaume Lacroix, donc un des associés de Together Studio, et Renaud Levent-Kim. On a parlé tous les trois de ce projet, qui était de proposer des clés d'entrée en fait sur l'actu politique à ce qu'on appelle plutôt les millennials, donc c'est les 15-35 ans quoi, en gros.
De contexte. Laurent Lucas, que vous venez d'entendre, vient du petit journal de Canal+. Renaud Levent-Kim, qui l'a cité, est également un historique de la chaîne cryptée pour laquelle il a produit Le Grand Journal. Guillaume Lacroix, également cité, était quant à lui producteur du Bifort du Grand Journal. Esprit Canal, es-tu là? Si vous suivez cette émission régulièrement, vous vous souvenez peut-être de l'épisode récent où nous racontions la reprise en main du groupe Canal+, par Vincent Bolloré. Les départs de figures historiques et d'employés de Canal se sont comptés par centaines et les nouveaux projets nés de cette hémorragie pullulent. Le quotidien sur TMC, vu sur France 2, explicite, porté par d'anciens d'ITélé et donc Brut.
Eh bien, on est en direct et on est sur Brut.
On va faire, je pense, beaucoup de buzz.
Vous êtes un président chez Brand.
C'est déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû le dire câblé.
Mais arrêtez de faire le clown, vous méritez mieux que ça.
Ne me traitez pas, s'il vous plaît, de clown, monsieur Cahuzac.
J'arrête de vous traiter de clown quand vous cesserez de le faire.
Voterez-vous pour Benoît Hamon le 23 avril?
Non. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner.
Qui a dit je vous emmerde?
Ah, pas moi.
Quiet, quiet, quiet.
L'idée d'origine est donc de s'adresser aux 15-35 ans avec une forme adaptée à leur goût et leurs usages. Reste à trouver la recette qui marche.
On a travaillé sur l'habillage, sur la meilleure manière de faire apparaître les sous-titres, les textes, les choses comme ça, parce que pour nous c'était essentiel que les contenus puissent être visibles intégralement sans le son. Puisque l'usage fait que maintenant, en fait, sur les réseaux sociaux, la majorité des vidéos sont vues sans le son. Donc il fallait que la qualité de l'information soit identique avec ou sans le son, quoi.
C'est d'abord ça l'identité brute, des vidéos courtes, sous-titrées, même quand c'est en français, pas de commentaires, pas de voix off, mais du texte efficace, souvent coloré, pour incarner le journaliste. Tout ceci avec un style rythmé, ludique et souvent irrévérencieux.
En fait, ce qu'on voulait, c'est un peu un mélange de contenus qui puissent être des vidéos très courtes, pédagogiques ou de décryptage d'actualités chaudes ou d'actualités dans l'air du temps. Donc mélanger ces contenus très courts qui sont consommables très rapidement quand on est dans le métro, quand on est à table en famille, quand on est donc mélanger ces contenus et des contenus beaucoup plus longs qui sont des interviews donc qui sont faits essentiellement par Rémi Buzyn, qui peuvent être des interviews qui durent une heure ou deux heures, enfin vraiment prendre le temps d'aller au fond des choses, au fond des explications, sans être coupé par une coupure pub comme on peut avoir à la télé, ou par le programme d'après qui fait que l'interview doit s'arrêter au bout d'un quart d'heure, 20 minutes ou 30 minutes. On nous disait beaucoup que faire une plateforme comme ça, 100% réseaux sociaux, qui allait parler de politique, ça allait pas forcément intéresser le public qu'on visait. Tous ces formats-là ont été validés tout de suite parce que ils ont été très regardés, très commentés, très partagés. Parce qu'au-delà de juste les regarder, en fait, on s'est rendu compte aussi que les gens les partageaient, les commentaient et que tout ça faisait ce qu'on appelle l'engagement, nous, sur les réseaux sociaux, qui pour nous est très important parce que ça veut dire que les gens qui regardent nos vidéos ont envie de la partager et surtout ont envie de commenter, c'est-à-dire et du coup il y a des discussions qui partent de nos vidéos et les gens discutent entre eux, débattent entre eux des contenus des vidéos.
Le plus grand succès de Brut, et on peut le dire, la vidéo qui a fait décoller le média, concerne les États-Unis. On y voit le sénateur Bernie Sanders, candidat malheureux à la primaire démocrate, auditionné de futurs membres du gouvernement Trump.
My question is, and I don't mean to be rude.
Le premier plan de cette vidéo est un gif animé de Sanders qui baisse et remonte la main en rythme avec la musique. Le texte, qui s'affiche comme s'il était en train d'être tapé, explique que Bernie Sanders a fait passer, je cite, « un sale quart d'heure à l'équipe de Donald Trump ». Un visage de femme apparaît, c'est celui, on l'apprend, de Betsy DeVos, nommée à l'éducation et, précise le texte, milliardaire. Retour sur une vidéo de Sanders qui s'adresse donc à DeVos. Pensez-vous que si vous n'étiez pas milliardaire et si votre famille n'avait pas donné des centaines de millions de dollars au parti républicain, vous seriez assise ici aujourd'hui. Fin de séquence avec DeVos qui ne semble pas savoir quoi répondre. S'ensuivent une série d'autres victimes. La vidéo se conclut sur une image de Sanders revisitée en mode voyou avec les codes de la culture internet.
You're not gonna get my vote.
Cette vidéo-là a fait plus de 13 millions de vues. Et c'est vrai que cette vidéo-là, je pense qu'elle résume bien ce qui est Brut. C'est qu'on parle d'un homme politique américain sur un sujet qui est l'audition de l'administration Trump, donc qui n'est pas un truc a priori qui va passionner le public français. Et c'est une vidéo qui marche très très bien parce que je pense que la forme de la vidéo fait que c'est agréable à regarder et on apprend en plus des trucs, quoi. On dit beaucoup que les gens sont désespérés de la politique, s'intéressent pas à la politique. Nous, c'était un peu le point de départ de Brut, c'était comment parler de la politique pour que les gens s'y intéressent, et les jeunes en particulier. Donner des clés de compréhension pour là actuellement la campagne, et puis plus généralement sur la société, la politique, d'amener de l'information fiable faite par des journalistes.
Je m'appelle Karine Lambin et je suis journaliste à Brut. Quand j'ai commencé le journalisme, j'aurais jamais imaginé que je travaillerais chez Brut parce que ça n'existait pas ce genre de média. Ce qui me motive dans Brut, dans le projet Brut, c'est vraiment qu'on essayait vraiment de cibler les gens qui normalement ne s'intéressent pas aux médias, ne s'intéressent pas à l'actualité et qui pourtant à qui on a plein de choses à dire. Donc on essaye de leur dire de façon plutôt sympa, intéressante et efficace en allant droit au but. Et si jamais ça les touche, eh ben, ils iront chercher après pour en savoir un peu plus. Et donc j'essaye de faire des sujets pour expliquer des thématiques, comprendre la communication des hommes politiques essentiellement. En fait, on fait des sujets très variés. Par exemple, hier, j'ai fait Le Pen-Poutine, une rencontre de point de vue, où en fait on s'est intéressé à la façon dont avait été relatée la rencontre entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine à Moscou. Et on s'est concentré sur CNN et Russia Today, donc un média russe, un média américain. Et on, bizarrement, ou pas, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas du tout parlé de la même façon.
Perhaps that is a sign of consistency. It is a message
to those. On est très brut, donc ça veut dire qu'on laisse surtout les images parler d'elles-mêmes en essayant de mettre le moins de commentaires possible. Donc là, on a choisi deux extraits, un de CNN et un de RT. et voilà, en essayant d'être le plus sobre possible et que chacun se fasse son opinion, quoi.
Vladimir Putin's latest attempt to manipulate another country's levers of power.
Pour moi, c'est une façon de mettre en lumière que les médias ont, pour certains, un prisme, et que là, en l'occurrence, Russia Today a voulu mettre en avant la cohérence de Marine Le Pen, qui ils disent est friendly avec la Russie, et même si elle a été attaquée pour ça en France, continue de l'être, et c'est pour ça qu'elle a été reçue par Poutine. Pour CNN, c'est plutôt la preuve qu'une fois encore, la Russie essaye d'avoir un poids sur une élection comme elle a supposément eu un poids sur l'élection américaine, quoi.
Aujourd'hui, vous faites exprès de faire beaucoup de choses internationales, de regarder un peu ce qui se passe ailleurs, ou ça vient naturellement, ça peut disparaître, comment ça se passe ?
Bah alors déjà, on est une petite équipe, donc on fait aussi avec les idées du jour. Et des fois, voilà, il y a des sujets qui nous interpellent à l'international et sur lesquels on a envie de se pencher. Puis des fois, on a juste envie de rester dans notre petit monde politique français ou s'intéresser à des sujets de société. C'est vrai qu'on a décidé de plus en plus de varier. C'est vrai qu'à la base, on était, moi, je pensais que j'allais faire beaucoup plus de sujets politiques sur la communication, comme c'est quoi un meeting ou c'est qui telle ou telle personnalité politique. Et puis en fait, naturellement, en fait, on s'est rendu compte que notre audience aussi s'intéressait à ces sujets-là et qu'on avait des choses à leur apporter. Et je dirais que ça s'est fait comme ça, de façon naturelle.
Pendant que je parlais avec Karine Lambin, nous allons la retrouver, Marie-Stéphanie de l'Atelier des médias s'entretenait avec d'autres personnes de Brut occupant des postes complémentaires à celui de journaliste. Première rencontre, Ghislain Marais.
Alors moi, je suis community manager de Brut. Je gère les réseaux sociaux de Brut. Tous les contenus qu'on diffuse sur tous nos réseaux. C'est pas de tout repos, parce que je suis tout seul pour gérer. En fait, on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat. Et c'est cool parce que du coup, c'est le début et on est sur tous les réseaux. Donc, il faut inventer des formats et des contenus qui marchent sur tous ces réseaux. Mais après, il faut trouver une accroche et un titre pour chaque vidéo. Et c'est la partie éditoriale où il faut trouver un truc soit marrant, soit un titre un peu accrocheur. Donc ça, c'est ma partie.
Est-ce que tu pourrais me montrer, tiens, pourquoi pas ? Par exemple, ce que tu partages, ce que tu mets comme commentaire.
Là, en radio, je trouverais un...
Oui, par exemple.
Donc là, il faudrait que je t'explique...
Si tu me montres, mais c'est pas obligé, hein, mais sur ton ordinateur, par exemple.
Mais oui, je peux te montrer, ouais. Ouais, mais si tu...
Ah, par contre, on est coincé. Donc ça, je sais pas si tu l'as... On est coincé à l'extérieur. C'est pas facile de travailler chez Brut... Les conditions sont compliquées, on n'a pas les clés. Donc, à Emery, je fais une démo, donc ça va être hyper impressionnant.
C'est ça l'internet ?
Ouais. Donc là, on vient de publier à l'instant une vidéo sur le niveau d'anglais des candidats à la présidentielle.
You know, we are making cuts and reforms for ourselves first, and not for everybody else.
Donc, je sais pas comment je pourrais te montrer ça en le commenter en tout cas.
At this point. The euro system have self-destroyed.
Voilà, donc là, ma grosse plus-value, c'est quand même que j'ai mis un emoji. Donc, ça, c'est
qu'est-ce que t'as mis comme commentaire, déjà ?
J'ai mis « Les candidats parlent-ils correctement anglais ?»
It was impossible to continue my job.
Peu mieux faire, bon élève ou juste nul, on attend vos appréciations. Voilà, donc c'est pas forcément mon meilleur titre. Donc là, ça tombe pas bien. Mais c'est une vidéo où on essaie de faire participer la communauté, donc on leur demande... de commenter avec leurs appréciations. Donc là, j'actualise, donc je vais voir en direct s'il y a des commentaires. Voilà, donc quelqu'un dit que Mélenchon est complètement nul. Asselineau, la classe. Voilà. Et en plus, il parle japonais. Donc, et c'est vrai qu'on a beaucoup de fans de François Asselineau. Je sais pas après si c'est positif ou pas.
Bonsoir, bonjour.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Bonjour, je m'appelle Mathéo, je suis monteur chez Brut. J'ai commencé juste avant le lancement en octobre.
De Gaulle.
On aime bien avoir un côté un peu internet et tout ça, donc on essaye d'apporter ces éléments-là, nous, en montage. Que ce soit des gifs, des vidéos de pop culture, des extraits de films, des choses comme ça. J'aime beaucoup le fait qu'on essaye d'apporter de l'humour, mais tout en restant sérieux sur les sujets dont on parle. On fait de la politique, on fait de l'actu, et on parle de sujets forts, de sujets sérieux. Mais pouvoir apporter un côté décalé à tout ça, moi, c'est quelque chose qui m'a plu. Là, je travaille du coup sur une vidéo de qui est Jacques Cheminade, un candidat à la présidentielle qui n'est pas beaucoup représenté dans les médias et dont on peut parfois le tourner en dérision parce qu'il a des propositions qu'on ne retrouve pas dans les programmes des autres candidats.
Système, c'est le système démocratique.
On a remarqué que dans une interview de TF1, il disait énormément de fois le mot système en très peu de temps. On récupère toutes ces choses-là et du coup, on va pouvoir faire un montage dynamique avec ça et ensuite poser la question de qu'est-ce qu'il a contre le système, parce que dans cette élection, beaucoup de candidats se disent anti-système et on traite de ça. Ensuite, on a remarqué que le présentateur de TF1 était un petit peu condescendant avec lui. Il le prenait pas vraiment au sérieux, donc on essaye de récupérer les moments où il est pas pris au sérieux pour pouvoir montrer cet aspect-là aussi, de pouvoir définir le candidat. Et par la suite, j'en suis pas encore là, mais on va décrypter un peu son programme, les grandes lignes, et présenter ce candidat simplement.
Vous avez présenté comme le candidat qui voulait aller sur Mars.
L'espace.
L'exploration spatiale.
C'est pas une affaire hollywoodienne, c'est pas Interstellar ou Seul sur Mars, c'est une affaire sérieuse.
Je m'appelle Karine Lambin et je suis journaliste à Brut.
Est-ce qu'il y a des sujets ou un sujet dont tu es particulièrement fier, que tu montres souvent en exemple ?
Alors, un sujet que j'ai fait pour Brut et que j'aurais pas forcément imaginé, c'est 5 idées reçues sur le vélo. Il se trouve que moi, je me déplace à vélo, donc j'avais beaucoup de choses à dire sur le sujet.
On peut le regarder, peut-être tu peux nous expliquer.
Alors, ça commence par une petite blague de Homer Simpson qui fait du vélo, qui se retrouve avec la selle coincée. Et après, on déroule très sérieusement des informations sur le nombre de personnes en France qui font du vélo, sur la pollution, ce genre de choses. Et un sujet comme ça qui peut paraître un peu aride, on l'a illustré uniquement avec des images de films et de séries. Et c'est la forme un peu sympa qui accompagne. Et c'est ça aussi, on essaye de à la fois trouver des sujets intéressants et de les illustrer de façon sympa, parce que là, c'est une succession de chiffres qui pourrait paraître un peu aride. Et dans le montage et la mise en forme, ça devient sympa à regarder. Alors après, là, je sais pas si c'est un truc qu'on peut dire dans l'émission, mais en fait, c'est aussi la question de Brut. C'est tout à fait illégal, en fait, ce qu'on a fait là.
Je ne sais pas vraiment demander, mais comme c'est des images de films, j'imagine que vous prenez pas le temps de demander à une centaine de d'ayants droit si vous pouvez utiliser les images.
On n'est pas complètement pirate, on est abonné à l'AFP pour les images, à l'INA. En plus, on a un partenariat avec France Télévisions qui fait qu'on est plus ou moins à l'aise pour avec certaines images, mais il y a des sources qu'on s'interdit pour l'instant.
Comment tu vois l'évolution d'un média comme celui-là ?
J'en ai pas la moindre idée. Moi, j'ai envie que ça continue parce que moi, j'y suis très bien. Mais quand on s'est lancé il y a quelques mois en France, on n'était pas beaucoup. On est déjà plus aujourd'hui. Donc, sur les formats, sur les vidéos, c'est comme ça, directement sur les réseaux sociaux, on voit bien que y a un effet de mode. Après, moi, ce que j'espère, c'est que la sensibilité qu'on a à pas traiter l'actualité pour l'actualité, mais à mettre en avant des sujets, c'est vrai que c'est un truc dont j'ai pas abordé, mais un éclairage sur la pollution de l'air, sur la pauvreté en France, sur les contradictions de telles paroles politiques de telles personnes en revenant dans les archives et tout ça. On fait plein de sujets qui sont pas dans l'actualité du jour, mais qui ont, je pense, un intérêt. Comme on s'oblige pas à suivre l'actualité, mais qu'on essaye de s'intéresser à des sujets qui nous paraissent importants, ça, je pense que c'est quelque chose qui aura un intérêt encore longtemps, parce qu'il y a certains sujets qui ont simplement des valeurs pédagogiques. On voit parfois des internautes qui nous remercient d'avoir abordé tel ou tel sujet parce qu'ils n'avaient jusque-là pas vraiment compris. Et ça, c'est ce dont je suis le plus fier et j'espère qu'on continuera longtemps.
C'est l'heure de la pause dans l'atelier des médias. Restez avec nous, nous continuons dans un instant la découverte de Brut à travers un entretien avec Rémi Buisine. Ce tout jeune journaliste s'est fait connaître en réalisant des vidéos en direct lors du mouvement Nuit Debout ou des manifestations contre la loi travail. Des vidéos autoproduites au téléphone portable, il a été recruté tout récemment par Brut.
Et donc c'est le rédacteur en chef et producteur éditorial Laurent Lucas qui m'a contacté. Il a eu un très bon feeling. Enfin, moi par exemple, ce que j'avais énormément apprécié lors des entretiens, c'est qu'on m'a dit on voit ce que tu fais sur Periscope, on veut que tu fasses exactement la même chose mais pour nous.
Brut.
Que la presse.
Que la presse.
Que la presse.
Vous êtes la presse?
Oui.
Nous sommes le 19 mars, c'est un dimanche et la vidéo que vous entendez est diffusée en direct sur Facebook. Vous avez du mal à distinguer ce qui se dit, c'est normal, c'est filmé au téléphone portable au cœur d'une marche pour la justice et la dignité, c'est-à-dire contre l'impunité des violences policières et contre le racisme. La vidéo va durer 35 minutes pendant lesquelles l'homme qui la filme plonge le spectateur au cœur de l'action. Ce film est bien différent des petits clips efficaces et léchés que nous vous décrivions dans la première partie de l'atelier des médias. Pourtant, il est proposé par le même média, Brut.
Mon petit frère, Abdoulaye Camara, a 31 ans. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2014, a été assassiné par la police. Ils l'ont allumé de 26 balles. 26 balles, oui, 26 balles.
Le jeune homme qui tient le téléphone s'appelle Rémi Buisine. C'est lui qui produit les vidéos live, donc en direct, de Brut. Son parcours est à l'image de celui de ce média fulgurant. Marie-Stéphanie Servos de l'Atelier des médias a profité de notre passage chez Brut pour interroger Rémi Buisine sur son travail.
L'Atelier des médias.
C'est un parcours assez atypique. Parce qu'en soi, je suis totalement autodidacte. C'est-à-dire que même dans le poste que j'avais en tant que community manager auparavant, j'étais aussi autodidacte. Alors, s'il faut aller à la base, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, moi, je suis passionné par le journalisme depuis tout petit. C'est-à-dire l'actualité, ça me passionne. Ce métier aussi. Alors, moi, à 18 ans, j'ai arrêté même avant le bac, ce qui fait que bon, bah, je me suis lancé dans la vie active. En indépendant tout d'abord, en auto-entrepreneur, en community manager pour des sportifs. Et ensuite, en 2013, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la capitale parce que moi, je suis originaire du Nord à la base. Donc, du coup, c'était le grand saut du domicile des parents au village, à la capitale, avec un contrat de travail donc dans des radios parisiennes musicales pour en tant que community manager, où je suis resté pendant 3 ans, donc jusqu'à l'été dernier. Mais en parallèle de ça, depuis début 2015, je me suis lancé aussi sur Periscope en tant qu'indépendant, où l'idée c'était de pouvoir retransmettre des événements d'actualité sur le live. En gros, j'ai tout de suite remarqué que via cette nouvelle technologie qui était mise à la disposition de tous, il y avait la possibilité d'avoir une nouvelle écriture journalistique qui compléterait ce qui existe déjà. Pas qui remplacerait, mais qui compléterait ce qui existe déjà. Donc ça a pris du temps à marcher, et puis au bout de... Alors déjà, il y avait eu certains événements qui avaient été extrêmement suivis, parfois tristes comme le 13 novembre, parfois plus joyeux comme Nuit Debout, qui a vraiment été une très forte exposition et qui m'a vraiment lancé, on va dire, dans le milieu. Et en quelque sorte, bah, ça m'a permis d'avoir quelques contacts l'été dernier, dont celui de Brut. Et c'est là que j'ai choisi d'avoir mon premier contrat en tant que journaliste, quoi.
On est toujours en direct sur Brut, au cœur de l'événement, au cœur de cette soirée de primaire de la droite et du centre, dans le QG de celui qui arrive largement en tête ce soir, François Fillon. Eh bien, on profite qu'il y a un petit peu moins de monde maintenant, parce que François Fillon, il est juste à côté, dans un café, le café Dauphiné, qui est à une cinquantaine de mètres, parce que son QG, il était trop petit, il ne pouvait pas accueillir tout le monde ce soir. Et donc, eh bien, pas mal sont restés juste à côté, dans le bar. Et vous avez, eh bien, ici encore quelques journalistes qui sont là en train de faire du montage du discours.
C'est vrai que moi, en tant que community manager, je suis très branché par rapport aux réseaux sociaux. Donc quand on m'a exposé le projet, je me suis dit, bon, clairement, il y a un créneau à prendre en France, et ce qu'ils font, c'est assez intelligent. L'idée d'arriver sur des réseaux avec l'idée de faire de la vidéo, de faire du direct. Puis il y a des modèles, des sources d'inspiration qui sont des grands succès, comme LG+. Je me dis qu'en France, justement, il y avait l'opportunité d'avoir des équivalents, non pas rattachés peut-être à des pages Facebook de gros médias, mais à un nouveau média qui s'installe. Donc j'ai tout de suite remarqué le potentiel éventuel qu'il pouvait y avoir vis-à-vis de Brut, des équipes aussi, l'idée de mêler à la fois des vidéos courtes et percutantes, du décryptage, du live. J'ai senti qu'il y avait une formule qui pouvait être intéressante et que ça pouvait marcher. Et puis aussi derrière l'excitation de se dire, je suis tout jeune, c'est mon premier contrat en tant que journaliste, et d'arriver dans un projet qui se crée, c'est assez excitant, au lieu d'arriver peut-être dans quelque chose qui existe depuis 15-20 ans et où là on participe à la création du projet, donc c'est génial en fait.
Et du coup, au sein de Brut, quel est ton rôle ?
Bah, mon rôle, c'est, on peut dire, journaliste du direct en soi, où c'est très varié parce que bon, on a une ligne éditoriale qui est très large, où on couvre énormément d'événements, ça va du politique, sociétal, à ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le breaking news. Donc du coup, bah, mon rôle, ça va être d'aller sur le terrain, sur des événements d'actualité, et puis de faire du long format en quelque sorte, donner dans une manifestation, montrer l'ambiance, les slogans, donner la parole aux manifestants. Il y a aussi une séquence par rapport aux interviews de candidats à la présidentielle. Donc là, depuis le début de la campagne, on essaye tour à tour d'avoir chacun des candidats, et donc moi je les interviewe en live, tout en prenant en compte l'interactivité, parce que c'est ça, je considère la force du live, c'est qu'on peut avoir des spectateurs qui sont aussi acteurs et qui peuvent poser des questions. Donc ça c'est génial. Donc c'est vraiment mon rôle, c'est vraiment sur le terrain en quelque sorte de l'actu, quoi.
Concrètement, ça ressemble à quoi une journée dans la vie d'un reporter de direct chez Brut?
Il n'y a pas une semaine classique, le lundi, vendredi, horaire de bureau, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on est vraiment très adaptable en fonction de l'actualité. On peut très bien commencer à 6h du matin, comme un peu plus tard, et finir à 2h du matin. Ça va vraiment dépendre de l'actualité. Donc en gros, c'est l'idée d'être réactif et puis de se dire qu'on sait à peu près où on commence la journée, mais on ne sait jamais où on la termine. C'est un peu le charme du métier, parce qu'en quelque sorte, il n'y a pas du tout de routine.
Je m'appelle Rémi Buzine et je suis journaliste pour Brut. Je suis en direct de l'aéroport d'Orly, où vous l'avez peut-être appris ce matin. Des coups de feu aux alentours de 8h30 ont retenti dans le terminal sud de cet aéroport. Une situation qui est toujours en cours d'évolution, les informations qui nous arrivent au compte-gouttes. Mais les tout premiers éléments que nous pouvons vous donner en direct, c'est que cette opération de police est toujours en cours, que les forces de l'ordre sont extrêmement nombreuses sur place. On a notamment la présence du RAID, vous allez pouvoir le voir à l'image, les plusieurs véhicules du RAID, des forces d'intervention qui sont donc présentes, vous allez le voir à l'image juste ici.
Par rapport à ce qui s'est passé à Orly, où on peut imaginer que le live peut être pertinent justement pour apporter des images et des informations sur place de ce qui se passe, je prends déjà la démarche de partir avant même d'en discuter avec la rédaction, et c'est en étant sur la route que j'appelle en disant je suis en route, à quel moment on peut lancer le direct, à quel moment ça peut être opportun. Donc on discute toujours, je lance jamais un direct de façon autonome, c'est-à-dire que jamais je vais me rendre tout seul sur un lieu d'actu et lancer le direct tout seul. J'avise toujours la hiérarchie, mais en quelque sorte, la démarche, je la fais à peu près moi-même, parce que je sais ce qui est dans Brut ou ce qui n'est pas Brut, quoi. Enfin, on sait à peu près les événements à couvrir dans la ligne éditoriale du média.
Pour avoir donc regardé tes lives, je les trouve assez spontanés, et j'aimerais savoir, est-ce que tu les prépares, et comment tu les prépares ?
Des fois on peut les préparer, des fois non. C'est-à-dire que par exemple un événement par rapport à Orly, on peut pas forcément préparer parce que c'est de l'inattendu, ça s'écrit sous nos yeux. Donc en quelque sorte, moi sur la route, je vais quand même essayer de recueillir pas mal d'informations, de noter des points importants, toujours en me fiant sur des sources officielles. C'est-à-dire on part pas dans de la rumeur ou dans des informations qui seraient pas encore vérifiées. On se base sur le ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, la préfecture de police, enfin bref, tout ce qui est vraiment source officielle, ou même les autorités en lien avec l'aéroport, si c'est l'aéroport d'Orly. Donc parfois on peut pas préparer comme ces circonstances-là, et on essaye de prendre quelques éléments le temps qu'on se rende sur place. Et il y a des fois on peut préparer un peu plus quand c'est une manifestation. Donc par exemple, l'idée, ça va être de se caler sur où en sont les négociations, quels sont les points importants de ce secteur, pour pouvoir interroger derrière les militants. Mais c'est vrai que le côté spontané, il est super important. C'est-à-dire que dans le sens où moi j'arrive sur un événement, je n'ai pas un conducteur. C'est pas comme une émission classique où on commence une émission, on sait qu'à 10 il y a une page de pub, à 15 on passe à tel sujet. C'est l'actu qui est face à moi qui va un peu maîtriser les choses. Dans le sens où si on veut faire un live de 30 minutes, on le fait. Et si on veut faire un live de 3 heures, on peut le faire. Et en quelque sorte, moi ce que je remarque, c'est que quand j'appuie sur le bouton direct, j'ai jamais dans ma tête l'idée de faire un live de 10 minutes ou de 2 heures. C'est-à-dire je vais au fond des choses et je me laisse un peu happer par cette actualité, à discuter avec des gens qui font un mouvement, qui ont des choses à dire. Et s'ils ont beaucoup de choses à dire, on les laisse parler, parce que c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du long format, c'est qu'on peut les laisser s'exprimer avec un outil de travail qui est beaucoup plus discret, donc moins intimidant aussi. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'avec un téléphone, je me rends compte que les personnes ont un côté beaucoup plus spontané dans l'échange qu'on va avoir. La base de tout pour moi, c'est vraiment la spontanéité, mais bien sûr que si on peut préparer, qu'on a l'occasion de le faire, on le fait pour essayer d'apporter beaucoup d'éléments de remise dans le contexte pour ceux qui regardent et qui ne maîtrisent pas forcément totalement le sujet, quoi.
Et vous voyez,
ça se passe comme ça, l'application SAIP, vous avez ce bruit qui est extrêmement puissant, cette alarme qui vous dit aéroport Orly Sud, alerte, je m'informe, c'est l'application SAIP du gouvernement, avec ces propos que je vous rappelle ou que je vous donne pour ceux qui viennent de nous rejoindre, opération de sécurisation en cours à l'aéroport Orly, nous recommandons aux passagers et à leurs accompagnants de ne pas se rendre à l'aéroport et de décaler leur déplacement.
L'avantage du live de cette façon-là, c'est qu'on est vraiment en immersion dans un événement. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on n'est pas, c'est pas l'image sur un plan fixe. C'est pas l'image la plus léchée qui va vous montrer vraiment le. Il y a la différence, ça va être par exemple par rapport à la télévision. On va avoir parfois des plans larges, un peu plus prise en hauteur. Là, c'est, on est dans quelque chose qui est en quelque sorte, sans jeu de mots, un peu plus brut. On est vraiment au cœur d'un événement, on est en immersion. En gros, c'est l'idée, c'est on donne son regard à ceux qui veulent bien se mettre à notre place et voir ce qui s'y passe. On va au cœur d'un cortège, on peut donner la parole aux gens. Et puis en plus de ça, du coup, on n'a pas un angle bien précis et ça permet de pouvoir tout montrer. Je prends en l'occurrence les manifestations au travail. Moi, ce qui me marquait, c'est que on avait le focus qui était quasiment à 100% sur le côté violence et sur le direct, comme moi je peux durer très longtemps en live, bah, j'avais l'occasion de pouvoir aussi, bon, bien sûr, bah, les moments violents, etc., bah, je les diffusais parce que ça fait partie de cette actualité, et c'est une actualité qui est grave, donc c'est important de pouvoir la développer, la montrer, mais l'idée, ce qui était aussi important, c'était de faire le focus sur la mobilisation, les slogans, les paroles des militants, est-ce qu'ils sont toujours motivés et engagés dans leur mouvement.
Voilà, par exemple, plusieurs banderoles, le féminisme n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours. On va essayer de voir si on peut éventuellement interroger quelqu'un. Pourquoi pas interroger un homme. Excusez-moi, bonsoir monsieur, je suis en direct sur Facebook Live pour un nouveau média qui s'appelle Brut.
Enchanté, moi je connais de nom.
Ah oui, je m'appelle Rémi.
Enchanté.
Enchanté. Serait possible d'avoir une petite réaction. Vous êtes venu donc dans cette manifestation contre les violences faites aux femmes.
Oui.
Un homme donc, pourquoi?
Oui. Bah parce que je suis un homme et que je prends, de par mon sexe, je participe à la société patriarcale telle qu'on la vit et donc participe indirectement aux violences. Bien que moi-même je ne suis pas un homme violent, mais j'y participe et donc je dénonce cette violence, voilà, d'où cet engagement.
C'est ça la force du live, c'est que ben on est dedans, c'est sans filtre, c'est sans montage, c'est aussi apprécié de la part du public. C'est-à-dire que, alors moi j'ai jamais entamé cette idée de faire du live dans cette démarche-là, mais j'ai ressenti qu'une partie du public qui arrivait sur le direct, ce sont des personnes qui ont une défiance des médias traditionnels et qui ont du mal avec des sujets qui sont montés en se disant bon bah voilà, vous m'interviewez pendant 10-15 minutes, qu'est-ce que vous allez passer sur votre antenne? Ou la personne qui regarde qui va dire oui, est-ce que les 2 minutes que vous diffusez correspondent bien à la réalité de l'événement? Là avec le live, ce qui est apprécié, c'est que bah voilà, c'est en direct. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure, il y a vraiment de très bons retours sur ce côté-là. Enfin, il y a vraiment un lien de confiance. Enfin, comme je disais tout à l'heure, on peut aussi impliquer les personnes en direct. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire de se dire qu'aujourd'hui, une personne qui était avant un spectateur passif devant une émission de télé peut se retrouver maintenant actif, à poser des questions, des commentaires. Moi, par exemple, il y a un point que je trouve génial vis-à-vis des commentaires, c'est-à-dire que moi en tant que journaliste, je considère que j'ai pas la science infuse, que je connais pas tout, on maîtrise pas des sujets forcément à 100%, enfin il y a des choses parfois qu'on ne pense pas forcément, et moi ça m'arrive de me retrouver avec des intervenants, d'avoir des personnes de qualité pour des interviews, auxquelles je vais poser des questions, et d'un seul coup il y a une personne qui va dire ouais, est-ce que tu pourrais poser une question sur tel sujet, c'est super pertinent, j'y avais pas pensé, et ça apporte une vraie valeur ajoutée, on implique les gens, et derrière éditorialement on a des questions qui sont top, où on implique justement, enfin, moi c'est ce que je considère un peu l'intelligence collective à profit du direct, où tout le monde peut apporter sa contribution, journaliste ou non, vu que les personnes sont des citoyens comme les autres, mais qui ont envie de s'informer et peut-être d'en savoir plus.
C'est parti.
Eh bien, on est en direct, on est sur Brut depuis Rennes avec un invité exceptionnel aujourd'hui. Ben, il est face à nous, vous l'avez reconnu, c'est Nicolas Hulot. Bonjour, monsieur Hulot.
Bonjour.
Alors, on a cette question de Dimitri. Pourquoi as-tu abandonné ta candidature à la présidence? J'aurais voté pour toi. Et s'il y avait peut-être une attente chez certains?
Je ne sais pas si la personne qui pose cette question imagine bien ce que c'est que de faire une candidature et surtout d'envisager l'hypothèse de se retrouver au second tour et voir éventuellement, même si j'entends bien et croyez-moi, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, mais dans le contexte inédit actuel, je ne devais pas tricher, c'est-à-dire me dire, est-ce que tu te sens, toi, qui as un bac plus 3 mois, même si dans ton engagement depuis 25 ans, tu as appris beaucoup de choses et que tu es entouré de gens merveilleux, de te retrouver à la tête de la cinquième puissance économique du monde, ça ne s'improvise pas.
Vous écoutez l'Atelier des médias, nous nous intéressons cette semaine à Brut. Nous sommes avec Rémi Buisine qui réalise des vidéos live pour ce tout jeune média.
Tu commentes tout au long de tes lives, tu parles aux spectateurs. Comment est-ce que tu interagis aussi dans les commentaires par exemple ?
Alors c'est vrai qu'il y a un flux de commentaires qui peut être très important. Alors des fois ça défile très vite et c'est même parfois difficile de les lire. C'est déjà arrivé un live où il y avait 10 000 commentaires en une heure, donc je pense qu'on est sur plus d'un commentaire à la seconde et ça va extrêmement vite. Mais sinon j'essaie d'impliquer l'interactivité au maximum possible. Par exemple des personnes vont poser des questions sur la mobilisation, sur ce qui s'est passé précédemment, tout en restant toujours dans le factuel. C'est-à-dire que moi vraiment ma base c'est pas de partir sur des choses qui peuvent être considérées comme de la rumeur ou de l'information encore non vérifiée. S'il y a des interpellations, bah moi je reste toujours sur celles que j'ai vues visuellement. C'est-à-dire que parfois on va me dire ouais, il y en a trois là-bas. Et derrière, les informations peuvent être vraies, mais je ne peux pas prendre le risque sur le live de partir sur les informations qui sont encore non vérifiées et que je ne peux pas moi-même vérifier sur l'instant. Donc je reste toujours sur le factuel, sur des choses que j'ai vues. Par exemple, à Bobigny, où il y avait énormément d'interpellations, il y avait des chiffres que je voyais passer sur Twitter de certains médias qui étaient beaucoup plus élevés que celui que moi je pouvais avoir visuellement, mais je restais sur celui que j'avais visuellement parce que je savais qu'il était certain et vérifié parce que je l'avais vu sous mes yeux. Donc l'idée c'est de pas faire d'erreur en tout cas dans l'info qu'on peut donner quoi.
Est-ce que tu as des retours qui te sont faits personnellement sur ce que tu fais?
Énormément, c'est-à-dire que je reçois beaucoup de messages sur Facebook, des fois dans ma messagerie. Alors ce qu'on reçoit énormément, c'est des personnes qui disent oui, bon bah voilà, nous on fait une manif, on fait tel événement, donc nous c'est intéressant, on prend toujours en compte, et puis après on voit si éditorialement ça représente vraiment une actualité forte et importante et représentative de la société pour la couvrir. Donc ouais, il y a beaucoup de messages, des messages bienveillants, d'autres qui peuvent être des conseils, des critiques. Le côté humain pour moi est très important, c'est-à-dire que bah, avec le live, on a vraiment le rapport direct avec les personnes. On a aussi, peut-être ça ferait peur à certains du milieu de la télé, son médiamétrie en live. C'est-à-dire que moi j'ai mon audience en temps réel, je vois quand ça monte, je vois quand ça baisse, et c'est assez intéressant parce que parfois ça peut permettre aussi de recadrer son direct. Des fois on voit des intervenants où l'audience monte et on se dit bah, qu'on tient une personne qui a un discours intéressant et qui intéresse. Du coup parfois bah, on va rester un peu plus longtemps avec cette personne parce qu'on se rend compte que elle dit des choses intéressantes et que le public monte et est retenu par cette interview. Donc cette audience en direct est super intéressante parce qu'elle permet de voir les points forts sur lesquels s'appuyer, les moments où lesquels ça accroche, les moments où lesquels on sent que ça prend un peu moins, où il faut peut-être partir sur autre chose, sur un nouvel angle, etc. Donc c'est assez génial. Mais même si, comme je disais, ça pourrait, pour en avoir discuté parfois avec des gens de la télé, avoir leur médiamétrie en live, ça leur ferait très peur d'avoir les courbes comme ça en temps réel. Un peu compliqué quoi.
Et ça fait quoi justement? Ça fait peur parce que ça peut aller très vite sur les réseaux sociaux, ça peut monter très vite les vues, les partages, les réactions.
Bah tant mieux, on fait ça aussi pour être vu, je pense en quelque sorte. Enfin moi, y a pas une course à l'audience forcément parce que moi j'ai déjà été très fier de certains directs et qui avaient fait des audiences qui étaient parfois même faibles, mais je considère qu'éditorialement on avait apporté quelque chose de fort. Je me souviens d'un live par exemple sur une action des véganes face au sein de l'agriculture. Bah, c'est loin d'être l'une de nos meilleures audiences, mais en quelque sorte, je trouvais qu'on avait eu un angle intéressant, qu'on était l'un des rares médias à l'avoir couvert, et donc du coup on apportait vraiment quelque chose pour ceux qui nous regardent. Donc voilà, il y a ce recul régulier tout de même par rapport à l'audience, mais après, le fait qu'il y ait une forte audience, j'essaie toujours de prendre du recul par rapport à tout ça, et ça ne change absolument pas ma façon de faire. C'est-à-dire qu'il y aurait 10 personnes ou 10 000, ma façon de faire va rester exactement la même dans les deux cas. L'idée, c'est vraiment de garder son sang-froid, et puis plus il y a de monde, mieux c'est. Enfin, je pense que, je veux dire, quand on entreprend une couverture d'actualité, quand on entreprend même n'importe quel projet, plus de personnes sont là pour voir, regarder le travail qu'on peut fournir, bah, plus on est content, plus on est fier. Ça, c'est sûr que c'est bien, ouais.
Bonjour à tous, bienvenue sur Brut, votre nouveau média en ligne sur l'actualité politique. Et ce matin, eh bien, nous sommes dans le QG de Manuel Valls, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est son inauguration, une heure avant l'ouverture à la presse. Nous sommes avec Manuel Valls. Bonjour, monsieur Valls.
Bonjour Rémi.
Comment allez-vous?
Très bien, très heureux de vous accueillir ici dans ces locaux de campagne, dans ce siège de ma campagne pour les primaires, pour l'élection présidentielle.
Ben merci pour votre accueil. Alors,
on va vous faire visiter.
Ah ben avec plaisir.
Voilà.
Tu te retrouves à aller visiter le nouveau QG de campagne de Manuel Valls. Et là, finalement, c'est Manuel Valls lui-même qui te fait la visite. Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là quand même de se retrouver face à un homme politique qui te fait visiter ses locaux et de manière en plus très simple?
Alors déjà, j'étais très content parce que vis-à-vis du live, on montrait justement la force de ce nouveau format, cette nouvelle écriture journalistique qui faisait qu'en sorte on peut aller en immersion au cœur, bah, par exemple, d'un QG. Et je veux dire, le format qu'on a pu montrer ce jour-là, c'est vraiment quelque chose qui tient de la force du direct, la force du live streaming, parce que je pense qu'aucune chaîne de télé n'aurait pris le risque de rester sur quelque chose d'aussi long, même une chaîne d'information en continu. Donc la force, elle est là. Après, il y a un côté impressionnant. Bah, c'est vrai que moi, en quelque sorte, si on parle un peu de mon parcours, tout allait extrêmement vite. Il y a encore un an, je veux dire, j'étais très loin d'imaginer partir sur quelque chose de journalistique à 100%. Donc se retrouver face à l'homme qui, a encore une semaine, était Premier ministre, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Mais après, bah, il faut toujours essayer de garder du sang-froid parce qu'on est en live, parce qu'il y avait une interview qui était prévue. Donc très rapidement, c'est-à-dire que les jours précédents, il y avait un peu de pression parce que voilà, et en espérant que ça se passe bien, comment l'ex-premier ministre va réagir. C'est un nouvel exercice aussi pour lui. Est-ce qu'il va être à l'aise? Enfin, il y avait beaucoup de paramètres qui étaient à voir en direct et on était curieux de voir aussi. Puis comme je disais, comme on est sur une nouvelle écriture journalistique, des fois on ne sait pas trop comment les personnes vont réagir. Et puis finalement, bah super, ça s'est super bien passé. Je veux dire, la visite d'un QG, ça montre les coulisses d'un QG de campagne, un bureau, les personnes qui sont là, qui fait quoi dans un QG. Du coup, c'était éditorialement, enfin moi j'étais super content parce qu'on apportait vraiment quelque chose vis-à-vis de ceux qui nous regardaient, parce que on montrait un peu les coulisses de la sphère politique et en direct. Donc même vis-à-vis de ceux, on revient, de ceux qui, voilà, les montages, etc., voilà, ils sont au cœur de l'événement en direct, et ça, c'est pas mal.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un dimanche à Nuit Debout, dans ce replay pour ceux qui verront cette vidéo après le live. Bonjour à tous, on est en direct ici, place de la République.
Bah, mon meilleur souvenir de reportage, je considère que ça peut être une nuit debout, parce que c'est vrai que ça a été pendant 3 mois très intense où j'ai suivi cet événement tous les soirs, où j'accordais un point très important à l'humain. Alors c'est ce que je fais toujours, mais là le focus pouvait être extrêmement intéressant parce que j'avais des personnalités que je faisais intervenir tout au long de cet événement pour prendre un peu leur évolution et leur ressenti sur l'évolution de la situation dans le temps, qui étaient des citoyens lambda qui faisaient partie du mouvement et où l'idée, c'était on va leur parler tous les jours et puis voilà, comment toi tu sens les choses aujourd'hui, il y a eu cette manif cet après-midi, il n'y avait pas beaucoup de monde, est-ce que tu es découragé, puis le lendemain finalement il y a une place avec 3000, 4000 personnes où c'est un peu l'euphorie, et l'idée c'était un peu d'avoir quelques intervenants comme ça qui pouvaient vraiment apporter un côté humain, un côté épisode à cet événement qui était Nuit Debout, où le live streaming, je pense que c'était moi ce que j'étais vraiment content par rapport à Nuit Debout, et la médiatisation qui a pu commencer pour moi à ce moment-là, c'était pas par rapport à ma propre personne, c'était surtout par rapport à la technologie et par rapport à mon travail, de montrer que le live streaming, ça permet de faire des choses géniales sur ce type d'événement. On va en immersion, on peut retransmettre une AG, on peut se mettre au milieu de la foule, vraiment retransmettre les choses au cœur d'un événement de façon très authentique. Et donc du coup, comme ça a vraiment été une rampe de lancement, ça m'a vraiment boosté aussi, c'est vrai que j'en retiens un grand souvenir. Et puis je considère qu'éditorialement c'était génial parce que là on a la force du live avait vraiment une force incroyable à ce moment là donc très très grand souvenir. Et puis c'est vrai que moi de ce que je préfère dans les lives, c'est vraiment le contact avec les gens, enfin donner la parole à ceux qui font l'actualité, qui ont des choses à revendiquer, des choses à dire. Et c'est passionnant parce qu'il y a tellement, dans notre société, il y a tellement de gens qui ont des choses à dire, surtout dans cette année de présidentielle où il y a tellement de secteurs qui souffrent, d'idées, de propositions, de sensibilités politiques au sein du pays, dans un contexte où, ou la France avec tout ce qu'elle a vécu, le chômage, le terrorisme, etc. Parfois des fragments de population qui peuvent être un peu fracturés, où l'idée, bah, justement, on va essayer d'aller chercher cette parole de tous bords politiques, en restant bien sûr respectueux des uns des autres, mais de donner la parole à tous, et c'est ce que le live peut permettre de faire. Enfin, moi, par exemple, je suis quelque chose sur lequel je suis très content et qui dépasse un live, c'est de pouvoir avoir des avis totalement opposés politiquement. C'est-à-dire que on peut avoir des avis qui peuvent être les militants de Philippe Poutou, à ceux d'Asselineau, à ceux de Macron, de Fillon, de Mélenchon, et toutes les sensibilités humaines et politiques du pays, leur donner la parole, et c'est ça qui est. Que je trouve très intéressant, quoi, sans prendre parti. Et c'est ça aussi la force de ce que j'ai envie de faire. The world forgetting by the world forgot. I don't know what this world is coming to. They say that to me all the time. But I am not so sure. I think they might lie. I think if we were to go and press rewind, we would find all these days look the same. It's really just another shade of gray. Funny how we always wanna move in waves. Funny how they say we're never on the same page. But if you're zooming down, they don't look the same way. Hey, there we are. We're moving as a body and the bodies at odds. Funny how we always wanna move like stars. Then we push, then they shove. And we charge and they run, but we all fall together. And we learn and they learn, and we burn who we were, and we move that ball together. Forgot.
C'était l'atelier des médias. Merci aux équipes de Brut pour leur accueil. Cette semaine, c'est Pierre Chaffanjon qui était aux manettes. En coulisses, Marie-Stéphanie Servos, Constance Léon, Camille Deloche et votre serviteur Ziad Malouf. Pour nous réécouter, pensez podcast. Salut à toutes et à tous.
Écho d'ici.